Et maintenant que le son tourne, je trouve que ça pète, truc de fou. Les gens autour de moi bougent la tête, brisent leur cou. Les idées germent dans ma tête, tout d'un coup je me dis pourquoi pas faire le simple constat 5 sur le foot. À l'heure où les MC jouent des coups pour la première place, ou beaucoup pour le coup sans doute se seront relégables. Avec ma rime mes phases, j'ai la formation parfaite pour décrocher la victoria à la David Beckham.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tribune foot les amis. J'espère que vous allez bien, parce que ça fait un moment qu'on vous a pas, on n'est pas passé. Et la situation est assez bizarre, vous allez comprendre tout de suite, je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Alors les amis, pour m'accompagner dans cette émission, nous avons l'ancien leader de la Ligue 1, Moulay.
Bonjour à tous.
Bien comme Moulay.
Ça va.
Ça va, pas trop décidé, on va perdu la place de la première...
C'est ça, ça arrive, c'est le foot, hein. Mais bon, on va la reconquérir très vite.
Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, il y a encore que 2 points d'écart avec c'est le PSG ça. Et Lille. C'est pas fini. Et nous avons l'ancien leader de la première ligue, Omar.
Bonsoir à tous les amis, ravi de vous retrouver encore une fois. Hein, vous nous avez manqué, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais la tribune foot, c'est votre émission, l'émission des auditeurs. Et on vous lâchera jamais.
Voilà, et justement, je rebondis ça, Omar. Parce que comme j'ai dit précédemment, c'est que là, c'est un peu spécial. Parce que là, vous nous écoutez, mais le truc... C'est actuellement...
C'est qu'on n'est pas dimanche.
Voilà, on n'est pas dimanche. On est vendredi. Oh, et surtout, on est...
Pourquoi avant ?
En plus, on est vendredi 22 janvier. Ah, on est déjà le 22 quand même.
Ça veut dire quoi ?
On est déjà le 22. Non, c'est parce que... Bientôt, je vais recevoir ma paye, mais bon, ça, c'est un
peu... On s'en fout.
Moi, je m'en fous pas du tout, tu vois.
Bah, partage, alors. Frère, je suis content. Mesdames et messieurs, Samba vient d'annoncer aujourd'hui...
Oh, tu vois, même sous enregistrement, je suis obligé de couper son micro.
C'est dingue, quand même.
Oh là là. Non, plus sérieusement.
Vous avez vu, Samba, il veut pas partager sa paye.
Mais oui. Toi, tu partageras ta paye, toi ?
Bah, avec les auditeurs, oui.
Oh, le fuck !
Alors là.
Ah, bah oui. Oh, eh bah oui. On est une tribune, on partage avec les supporters.
Je sais pas, ils sont combien, mais si tu dois partager, ça va être chaud.
Bah, donne l'argent.
Bah, là, comment tu crois que je vais sortir de mon chapeau ?
Putain, t'es menteur.
Regardez, doute de ma parole, regardez. On est une équipe, mais le capitaine, il doute de ma parole.
C'est normal, quand ton joueur fait n'importe quoi, t'es obligé des fois de le recadrer.
Le capitaine du bateau doute de ma parole. Alors
le
que j'ai.
Bien sûr, le capitaine du bateau.
Le bateau va bientôt chavirer.
Avec Samba à la barre, bien sûr.
Vous avez vu comment vous êtes pété. Oh, c'est abusé, hein. Oh là là.
Non, on vous aime, les auditeurs. Non,
ouais.
Non,
mais on va revenir un peu plus dans le sérieux. On est obligé d'enregistrer parce que, comme vous savez, il y a le couvre-feu qui est à 18h. Surtout qu'on respecte ce couvre-feu.
Ah ouais.
Surtout.
Ah bien sûr.
Il
hein, ah,
faut absolument le respecter pour effacer ce virus. Et voilà, on est obligé d'enregistrer, d'essayer de trouver des petites stratégies pour pouvoir vous faire écouter la tribune foot, l'émission que vous aimez écouter tous les
dimanches. L'émission avec du football dedans. Il n'y a que du foot. Du foot.
Toujours.
Du foot. J'en profite du sommaire pour vous annoncer le nouveau concept de la tribune foot qui est. Parce que vous avez remarqué que je suis en train de vous tirer les pompes, mes chers auditeurs. Un nouveau concept qui a été créé par moi et mon seul génie. Bien sûr, un nouveau concept qui vise à ce que vous choisissiez les sujets. Dans une rubrique qu'on appellera la tribune, parce que c'est vous les maîtres de l'émission. Donc, on vous proposera les sujets sur le compte Twitter, @latribunefoot78, la tribune foot, où vous pourrez réagir, voter pour le sondage qu'on va faire à partir de la semaine prochaine, et pourquoi pas réagir.
Être présent sur Twitter, voilà, pour comme ça vous participiez et que vous soyez présent dans l'émission. Alors.
On peut commencer.
On commence, ne vous inquiétez pas. On va commencer parce que la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, mais.
Il y a 2 semaines.
Ouais, on va entre guillemets dire il y a 2 semaines, ouais, voilà. Voire même.
Tu pouvais dire la dernière émission ?
Voilà.
Lors de la dernière émission.
Lors de la dernière.
Je suis obligé de lui apprendre à présenter l'émission, c'est incroyable.
Tu vois, il y a un petit bouton, un clip, tu vois. Bref. Lors de la dernière émission, je vous avais teasé quelque chose. Comme quoi, pour moi, cette saison était à l'image de ce que je pensais. Du fait que Zidane, saison 2-3, personnellement. Pour moi, je pense ça. Et aujourd'hui, je vais donner les arguments qui me font penser que c'est la saison de trop. Après cela, nous allons enfin finir les mi-saisons. Et on va parler de la première ligue, entre guillemets, voilà, dire ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, surtout hein, du côté de Liverpool ou d'Arsenal. C'est doux, big up à toi. Je vais commencer avec pour moi pourquoi c'est la saison de trop pour Zizou, pour Zinedine Zidane. Alors, pour moi, Zidane est un grand entraîneur. Ce qu'il a fait, c'était exceptionnel, c'était incroyable, il n'y a rien à dire. Il arrive à s'en sortir dans les moments les plus difficiles.
Ouais.
Contre le Barça, contre l'Atlético de Madrid, tu vois, il a réussi, entre guillemets, à battre les gros. Mais, pour moi, Zidane n'est pas l'entraîneur qui va te remettre un club sur le devant de la scène sans avoir les personnes dans le club. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Parce que moi, je vous donne un exemple. Klopp, quand il arrive à Dortmund, il arrive, il construit l'équipe, mais c'est lui aussi, il construit les superstars. Quand tu vois Liverpool, quand tu vois comment il a fait avec Sadio Mané, oui, à Dortmund, mais là, surtout, c'est plus flagrant avec Liverpool.
Ouais, je vois ce qu'il veut dire.
C'est plus flagrant avec Liverpool que Dortmund, je trouve.
Pour moi, plus à Dortmund qu'à Liverpool.
Oui, il est possible, ouais.
Si t'as connu le Dortmund avant Klopp,
Royce n'était pas top.
Avant Klopp, bah Dortmund c'était une équipe qui végétait entre le milieu de tableau et la fin du milieu de tableau. Mais il a ramené des joueurs inconnus qu'on connaissait pas.
Inconnus et qui les a mis devant de la scène, entre guillemets, qu'il a fait des grands joueurs.
Alors qu'à Liverpool c'est différent parce que Liverpool il avait déjà une certaine ossature, il en a gardé quelques-uns,
il y en a d'autres qui sont partis, etc. Mais
avec plus de moyens. Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, ça, Zidane, pour moi. Pour le moment, ne l'a pas montré.
En fait,
il avait déjà un effectif, entre guillemets, qui avait de l'expérience, qui savait comment jouer les grands matchs et les petits matchs. Il avait un leader au niveau de l'attaque. Ouais. On va pas faire d'éloge, bon, c'est CR7 et tout ça. Et que le Real a besoin d'un entraîneur pour repartir à zéro.
En fait, si je te suis bien, c'est que pour toi, Ronaldo, c'est un meneur d'hommes, c'est pas...
Zidane, excuse-moi.
Zidane, c'est un meneur d'hommes, c'est pas un entraîneur, en fait. Enfin, un entraîneur pour le futur, c'est ce que
je vois ce que tu veux dire.
Actuellement, ouais. Oui. Après, il peut... Enfin, il a déjà montré aussi, il a un esprit tactique. Hein.
Ouais.
Des fois, il a déjà déjoué un plan tactique, etc., en faisant rentrer certains joueurs, etc.
En fait, il a pas forcément d'idée de jeu précise, mais il arrive à déjouer des plans. Ouais,
il arrive à déjouer.
C'est pas... En fait, la tactique, c'est pas son
travail, entre guillemets. Tu vois, il va entre guillemets, aller... jusqu'à là-haut. Et comme j'ai dit, là, actuellement, le Real a plus besoin de repartir sur des bases solides. Quelqu'un qui va prendre les joueurs et qui va les ramener et qui va les transformer totalement.
Surtout que tu regardes le Real, tu sens que c'est une fin de génération, en fait. C'est...
Ouais. Pour moi, c'est plutôt le... Excuse-moi, t'as coupé mon mollet. Ouais. Mais pour moi, c'est plutôt l'échec du retour de Zidane. Plutôt que Zidane est un entraîneur qui ne sait pas faire ça, pour moi, c'est l'échec de son retour parce que on a tendance à trouver des circonstances atténuantes à Zidane, comme quoi c'est pas de sa faute, il y a le Covid, il y a ça. Mais je suis désolé, Zidane, c'est un entraîneur qui a eu, quand il est arrivé, après avoir viré, c'était Lopetegui.
Ouais, Lopetegui.
Lopetegui et ensuite Solari.
Ouais.
Zidane était revenu et le Real était en reconstruction complète. Mais le mercato suivant, Zidane avait des moyens. Zidane avait des moyens et il avait des joueurs en prêt.
Ouais.
Dont des joueurs qui sont très talentueux, qui étaient en prêt. Je parle notamment de Marcos Llorente, d'Achraf Hakimi.
Ouais.
Il avait la possibilité, en tout cas, de renouveler son effectif. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'a pas. Le problème, c'est qu'il a même pas fait ça en fait. C'est que la première chose qu'il a fait, en arrivant, c'est de prolonger Kroos et Modric. Déjà. Donc il a préféré d'abord refaire avec les mêmes.
Ouais, sur le noyau dur en fait.
C'est ça.
Ouais.
Et il s'est pas réinventé en fait.
C'est ça.
C'est ça le problème. C'est pour ça que moi, ce qui me pose problème, c'est le fait qu'on dise que c'est pas la faute de Zidane tout ce qui arrive.
En fait,
je pense que Zidane a ses torts.
En fait, il est resté sur ses certitudes en fait, c'est ça.
C'est ça. Il est resté avec le même groupe parce qu'il voulait rester sur la dynamique des trois Ligues des Champions d'affilée qu'il a pu gagner au début. Mais le problème, c'est que déjà, t'as plus Ronaldo.
C'est ça.
T'as plus Ronaldo et le bon, t'as Benzema qui rentre dans un niveau de forme absolument exceptionnel. Mais moi, je pense que Zidane ne devrait pas bénéficier de ces circonstances atténuantes-là. Pour moi, son retour est un échec. Son retour même est un échec.
Mais si tu regardes bien, son retour, il est sorti sur la grande porte, il revient et là, il risque de sortir sur la petite porte, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui est un peu paradoxal.
Ouais, c'est ça qui est.
C'est vrai. Surtout que c'est une leçon du Real et le voir sortir par la petite porte, ça ferait un peu mal quand même, non?
Après, après, il restera quand même une légende du Real par rapport aux trois Ligues des Champions qu'il a gagné. Après, le problème, c'est quand tu pars d'un club où t'as eu un grand cycle, une belle histoire.
C'est ça.
Quand tu reviens, le problème, c'est que t'as pas intérêt à te rater.
Voilà.
On l'a beaucoup
surtout,
vu, ça.
Bah, surtout, t'attends plus de ce qu'il a fait auparavant.
Et ça se finit encore plus mal. Ouais. Ça se finit encore plus mal que quand t'es arrivé la première fois. Quand t'es parti la première fois quand t'as fini. Zidane est parti par la grande porte. Trois Ligues des Champions, tout ça. Et il a dit, moi, je pars.
À ce moment-là, il était imbattable en Ligue des Champions. Personne ne l'avait battu.
Personne n'avait battu en Ligue des Champions, par exemple. Mais là, le problème, il est tout autre. Quand tu reviens dans l'endroit où tu as fait une belle histoire, me souviens de Leonardo Jardim, par exemple. Jardim, il avait fait une belle histoire, fin de cycle avec Monaco. Il finit deuxième. La dernière année, c'est plus compliqué. Où il est dans le maintien, il se fait virer. Mais ça reste quand même une belle histoire. Tu dis, ouais... c'est la fin de cycle. Mais quand il revient, Monaco, c'est une catastrophe.
En fait,
ça reste une catastrophe. Et il y a eu beaucoup ça. Mourinho aussi, pareil. Quand il est parti de Chelsea. La première fois, ça s'est mal fini, mais il est sorti la tête haute. Ouais. Mais la deuxième fois où il est parti, c'est encore pire parce qu'il s'est fait virer. Et Mourinho s'était jamais fait virer. Vous voyez ? Et là, ça pourrait être la même pour Zidane. Parce qu'il s'est pas fait virer. Il a démissionné la première fois. Et là, il pourrait se faire virer. Pour un entraîneur, se faire virer, ça fait mal.
Okay. En fait, moi, je me dis un truc. Quand tu as bien fini un cycle et que tu l'as bien fait et tu reviens sur un deuxième cycle, il faut avoir la certitude que tu feras mieux que le premier cycle, en fait.
Dans la même équipe, surtout.
C'est ça.
Ou, entre guillemets, tu fasses, par exemple, un entraîneur qui part et qui gagne la Ligue des Champions ou qui fait tripler, entre guillemets. Ouais. Il faut que dès que tu reviens, tu es assuré de faire au minimum. Tu as gagné encore la Ligue des Champions.
Voilà, parce que c'est dur de faire mieux.
Ouais. Bah c'est ça.
C'est dur de faire mieux à chaque fois. Quand tu as fait du
parfait, c'est.
Quand tu as fait du parfait, c'est dur.
Bah après... pour revenir, deuxième moulin, après je te redonne la main. C'est pour. Parce que je l'avais dit auparavant, après la victoire contre le Barça, Real Madrid-Barça, où Zidane avait sauvé sa tête. Moi, personnellement, et je l'avais dit.
C'est son groupe qui le sauve.
Pas forcément que c'est son groupe qui le sauve. Oui, c'est son groupe qui le sauve. Mais moi, pour moi, c'était repousser l'inévitable.
C'est ça.
Ouais, pour moi,
à plus tard.
Repousser à plus tard. Pour moi, Zidane.
Mais ça arrive souvent, là. Mais même le match contre Gladbach où il était en danger. Avant Gladbach où il était en danger complet. Et il finit par se sauver les fesses. Moi, je pense que ce qu'il a à son crédit, c'est qu'il a un groupe qui est à sa cause.
C'est ça. Mais est-ce que ce groupe est éternel? Parce que c'est ça le.
C'est ça aussi.
C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Comme je l'ai dit, quand t'arrives, tu veux reconstruire une équipe et tu repars avec les mêmes, avec les mêmes joueurs contre lesquels que t'as gagné. Je suis pas contre ça. Mais le problème, c'est que tu prolonges Modric. Modric, il est encore bon. Hein. Il est encore très très bon. Mais Modric, il a 35-36 ans. Il va avoir 36 ans cette année.
C'est là pour te dire.
Ça fait beaucoup. Kroos, il va avoir 30 ans. Ça fait beaucoup. Marcelo, tu le gardes.
Et encore, Marcelo.
Bon, encore, t'as Ferland Mendy, Marcelo, il joue plus. Mais même ça.
Ferland Mendy qui est très bon.
Ouais, il est très bon.
C'est l'une des seules satisfactions d'ailleurs.
Avec Valéo, au niveau des transferts.
Mais les gars que t'as ramené comme Vinicius, Rodrigo, Jovic, c'est un échec total, Jovic.
Ouais. Même Hazard, si tu regardes bien.
Hazard, pour l'instant, ça ne.
Ça ne marche pas.
En fait, c'est même pas que ça ne marche pas, c'est qu'il est pas arrivé.
Bon, on l'a même pas vu.
Il n'est pas arrivé. En fait.
Mais après, si, quand même, il a quand même une certaine prestation, etc. Oh, et pendant les.
Ça vaut
les
pas périodes 100 millions
il... Mais justement, pendant les millions. Périodes où il, entre guillemets, il se met. Enfin, où il fait ses prestations.
Sur combien de temps aussi?
Non, mais vu l'argent investi.
C'est même pas bof, c'est pas bon.
Vu l'argent investi,
c'est pas bon.
Normalement, tu dois vraiment attendre quelque chose de mieux.
Exactement.
Ah non, mais total.
Comme quand on était avec Griezmann.
Bah oui.
Quand on lui lançait des salves, c'était pas pour rien. C'est que le gars, il a un prix, il vient avec un statut.
Mais surtout, tu sais que ce joueur, il peut faire mieux, largement mieux de ce qu'il fait là actuellement.
C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est on peut dire que des fois, c'est indépendant de sa volonté. Dans la mesure où ses blessures, c'est souvent des coups qu'il prend et il peut pas s'en remettre. Mais le problème, c'est que lui aussi ne fait pas tout pour revenir. Parce que c'est pas un bosseur. Et c'est ça le problème d'Hazard. Et comme je l'ai dit, Samba, quand t'as des gars comme Achraf Hakimi, Marcos Llorente, t'as de quoi renouveler ton effectif. Marcos Llorente, tu vois ses prestations à Atlético, il est incroyable. Et Hakimi, je vais pas vous faire un dessin.
Voilà, et voilà. Ces joueurs-là, tu les passes.
Et Hakimi, on a tous vu ses prestations à Dortmund. On les a toutes vues, où il était absolument incroyable. Mais le problème, c'est qu'il a préféré garder Carvajal alors que Hakimi, il était là, quoi. Hakimi était là, Carvajal est tout le temps blessé. Le problème, c'est que tu peux pas tout le temps revenir, tu peux pas tout le temps garder ton effectif
intact.
Le problème des entraîneurs, c'est ça. C'est qu'ils ont du mal à se réinventer. On va y revenir avec Liverpool aussi.
Ouais.
Parce que Liverpool, c'est aussi un problème. C'est que le problème, c'est que tu peux pas croire que tes joueurs, ils sont éternels. Il faut changer. Et pour moi, elle était là l'erreur de Zidane.
On commence à voir la limite de ça. En fait.
C'est ça, c'est exactement ça.
Justement, pour souligner encore plus de ce que vous dites, parce que n'empêche que c'est sur le terrain, ça pêche, mais c'est au niveau du banc. Parce que le Real, actuellement, il n'y a pas très longtemps, a joué la Coupe du Roi contre une Division 3, une espagnole.
Alcoyon.
Et les gens qui étaient sur le terrain, ils n'étaient pas au niveau, en fait. C'est-à-dire que tu remarques que sur le banc, ils ne sont pas assez bons, entre guillemets, pour prendre la relève.
Ils sont même pas assez concernés, j'ai l'impression aussi.
Je pense que s'ils jouent leur vie. Après, bon, je veux pas trouver de circonstances.
Tous tes matchs, tu vas pas les jouer en mode.
Tu joues ta vie, bien sûr. Mais le problème, c'est ça. C'est que ce groupe-là se réveille que quand ils jouent leur vie ou quand leur entraîneur est sur la
scène.
Quand ils sont dos au mur. Et c'est ça le problème du Real Madrid aujourd'hui.
Et en plus.
Quand le Real n'a pas Sergio Ramos, c'est plus le Real.
Tu le vois.
C'est là que tu vois que le gars était presque aussi important.
Il y a un joueur aussi, et moi ça me fait mal au cœur de le voir comme ça, c'est Marcelo. À chaque fois qu'il est, depuis ses débuts de saison, à chaque fois qu'il est titulaire, c'est une défaite.
Mais faut dire la vérité, il est fini.
Bah oui, c'est fini.
Mais ça me fait mal au cœur.
Parce que le truc, c'est en fait, et c'est ça qui est cruel dans le monde du foot, ce qu'on va retenir maintenant.
C'est ta fin.
C'est ta fin, en fait.
C'est ça. Parce que, après, ça dépend. Ça dépend.
Là, moi, enfin, des fois, j'ai des débats avec certaines personnes, etc.
Non, mais ça dépend, tu parles avec qui.
Bah non, les gens qui sont fans de foot, pas des footix, hein.
Ouais, bien sûr.
Qui sont fans de foot, etc. Bah, dès qu'on en parle, dès que je parle de Marcelo, etc., directement, instinctivement, ça ressort. Je dis pas que ça ressort en premier, mais ça ressort.
Samba, il a raison, parce que si tu regardes bien, tu te souviens d'un jour de la dernière chose qu'il a fait, en fait.
Après, c'est la mentalité. Après, c'est aussi l'exigence du Real.
Bah, c'est ça.
Ça aussi, ça joue. Quand t'as un club qui est aussi exigeant, tu dois être tout le temps bon. Quand t'es pas bon, tu peux plus jouer au Real. Tu vois ce que je veux dire?
C'est
qu'il n'y a plus de pitié à un moment donné. Tu vois? Merci pour les travaux, merci Marcelo, merci pour tout ce que t'as fait.
Mais il est temps
de partir. Il est temps de partir. Mais Marcelo, je pense, c'est un des meilleurs arrière-gauche de l'histoire du Real. Depuis Roberto Carlos.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord.
Depuis Roberto Carlos, on n'a jamais vu ça. Donc je pense que ça, les supporters vont jamais te dire le contraire.
Moi, si tu me passes un Marcelo au top de sa forme, au top du top,
Roberto Carlos, on n'a jamais vu ça, tu vois. Donc du coup, certes, on va retenir sa fin, mais je pense que quand il aura arrêté sa carrière, tout le monde va se souvenir de qui était Marcelo.
Qui était Marcelo, etc. Et qu'on mettra. En tout cas, on continue vite fait un peu sur le foot espagnol, parce que moi j'ai aussi un truc à dire. Le foot, est-ce que pour vous le football espagnol est malade? Pourquoi? Je cite, l'Atlético de Madrid s'est fait éliminer aussi en Coupe du Roi par une division 3, la même équipe que le Barça a affronté hier. Et hier, le Barça a affronté cette équipe de division 3,
Cornea,
et ils sont partis jusqu'en prolongation.
Ouais, donc
Et est-ce que le foot espagnol
n'est
pas malin?
Moi, j'ai envie de dire un truc. J'ai envie de dire que, allez, on a vécu des années où le football espagnol dominait le football européen et même leur championnat et tout.
Ouais.
Et peut-être que, c'est une saison de transition. Même si c'est dur à le dire. C'est des saisons de transition.
Ce que tu veux dire, c'est en mode
renouvellement d'effectifs.
C'est en mode le foot espagnol. Excusez-moi, le foot espagnol a eu
ses heures de gloire.
Mais en plus, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, une dominance de plus de 10 ans.
C'est ça.
On n'avait pas vu ça depuis le foot italien.
Que ça soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions.
Même au niveau national, tu vois la compétitivité un peu du championnat. Bon, c'est souvent Barça-Real parce que Barça-Real, c'est les deux meilleures équipes du monde. À ce moment-là. Mais ce que tu veux dire, c'est que
Séville qui
là, il y a un coup de moins bien.
Ça peut arriver. Hein.
Et comme on n'y est pas habitué, donc du coup on est là, le foot espagnol est malade. Non, moi je pense que c'est un grand mot. C'est un grand mot, le foot espagnol est malade, parce que l'Atlético aujourd'hui est très très fort. Ouais. Aujourd'hui, je trouve que l'Atlético est très très fort. Et si tu parles de ce sens-là, je pense que le foot mondial, enfin mondial, en tout cas le foot européen dans sa globalité est un peu malade.
Ouais, c'est pas que le foot espagnol.
Ça se limite pas qu'au foot espagnol.
C'est pas que le foot espagnol.
Parce qu'on a vu aussi, ça en plus, c'est pas la première fois que ça arrive que le Real sorte face à une D3. Hein. Je sais pas si tu te rappelles en 2010, Moulay. Quand le Real est sorti contre Alcorcon,
je veux pas te mentir, je me souviens pas, mais ouais.
Moi, je m'en rappelle encore, le Real qui avait fait.
Ah oui, mais ils avaient les Galactiques en plus, ouais.
Ils avaient des Galactiques. Ouais, c'est la première année c'est la première année de Cristiano.
Ouais.
Cette année-là, l'entraîneur c'était Manuel Pellegrini, et ils avaient fait un mercato dingue. Kaka, Benzema, Ronaldo, Xabi Alonso, Arbeloa, c'était que des joueurs en vue. C'était la première année de Pérez, deuxième partie. Parce que Pérez, c'est pas sa première ère. Mais c'est déjà arrivé que le Real se fasse humilier par une D3. Alcorcón, c'était D4, je pense.
Que, pour vous, est-ce que Zidane va tenir au moins jusqu'à la fin de l'année?
Je pense, oui, quand même.
Ça va dépendre de la Ligue des Champions.
Je vois vraiment, mal se faire virer en milieu de saison, quand même.
Contre le Barça, ça a failli. Hein. Ça ne m'étonnerait pas de le voir.
Ça va dépendre de la Ligue des Champions, je pense. Parce que là, il a l'Atalanta. S'il sort contre l'Atalanta sans Papu Gomez, ça ne va pas tenir.
Ça va faire très mal.
Ça va pas tenir. Mais je pense que, comme j'ai dit, quand le Real joue leur vie, c'est là où ils sont très, très bons. Donc je pense qu'il va tenir jusqu'au mois de juin.
Moi perso, je suis assez sceptique. Je pense pas. Franchement, je pense pas. On continue de parler du foot espagnol en parlant du Barça. Et le Barça.
T'as vu la déception quand il dit du Barça.
Non, mais oui, parce que je suis désolé. Enfin, le Barça, c'est pour moi, je dis pas que ils régressent par rapport à leur dernière prestation. Mais moi, je trouve plus que ils enchaînent beaucoup trop. Enfin, il y a des joueurs qui enchaînent beaucoup trop. Et que j'ai l'impression que Koeman, entre guillemets, n'a pas de rotation.
Il n'y a pas le choix, en fait.
Ouais, bah, si, quand même, pour moi, t'as le choix. C'est-à-dire, quand tu titularises Pedri et t'as Ricky sur le banc, même si hier, il n'a pas été top, parce qu'hier, il y a eu Barcelone contre une équipe en Coupe du Roi. Et que Ricky a été titulaire, pour moi, contre Bilbao, Ricky devait commencer titulaire en soi.
Mais est-ce que Ricky Puig a le même rendement que Pedri? C'est ça le problème. Est-ce qu'il fait les mêmes différences?
Pedri est un peu meilleur quand même.
Meilleur. Parce que moi, je trouve assez différent de Ricky. Mais voilà, ils sont pas très loin.
Je trouve que Pedri, il a un rendement absolument exceptionnel.
Ah, il est incroyable.
C'est ça le problème. Il a mis la barre trop haute pour Ricky. Ricky Puig qui est pas forcément ce que Koeman il aime. Parce qu'on sait que tout le monde le sait, même carrément, que Koeman voulait s'en débarrasser, ou du moins l'envoyer en prêt.
Après, à la suite.
Il y avait le Milan qui était intéressant en plus. Je pense que ça va plutôt se faire. On a aussi le Info Mercato, j'en profite, parce qu'on est en hiver. Info Mercato, Junior Firpo qui va signer au Milan AC.
Ça n'était pas annulé hier?
Et justement, ça va se faire, normalement.
Parce que comment j'ai suivi les choses, c'est qu'il était à deux doigts. Dernière minute, à ce qui paraît, il s'est passé quelque chose et le truc a été annulé.
Moi, j'ai vu sur la presse italienne, c'était lundi.
C'est un transfert sec?
Moi, hier, j'ai vu ça, moi.
C'est un transfert sec?
Non,
après, avec
20 millions d'options d'achat.
Ah ouais, quand même.
Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'hier, j'ai vu que ça a commencé, c'était limite fait, entre guillemets. Mais pile poil, enfin pas pile poil, mais quelques heures avant le match, info de dernière minute, etc. Dernière minute, le transfert a été annulé, en fait.
Il est tombé à l'eau.
Ouais, il est tombé à l'eau.
À vérifier.
T'as vu cette info aujourd'hui?
Non, hier. J'ai vu hier sur la presse italienne. Sur la Gazzetta, il disait lundi.
Ah, vers le matin.
Firpo, ouais.
Ouais, ben moi, j'ai eu l'information le soir. Alors, écoute-moi.
Pourquoi il se la pète, lui? Mais pourquoi il se la pète, lui?
Voilà.
On dirait que c'est lui qui a sorti la faute.
On dirait que c'est Di Marzio. Mais il est malade, lui.
Non, moi, j'ai eu, plusieurs raisons, moi, j'ai eu cette information le soir.
Ah ouais, ouais. Officiel.
Officiel. Mm-hmm. Que le truc a été annulé, etc. Après, on va savoir, peut-être il va partir. Mais moi, personnellement, voilà, pour finir un peu sur le Barça, je pense plus que
Le Barça est cramé.
Si ça, il commence à cramer. Et que, comme Saïdou l'a dit en off, si on continue comme ça, si le Barça continue comme ça jusqu'en février, je suis désolé.
Arriver contre Paris Saint-Germain,
ça va faire très mal.
Ouais, il y a pas de. En vrai, comme j'ai dit, il y a pas d'options. Il y a pas vraiment. Il y a pas trop d'options. Surtout, en fait. Bah ouais. Il y a pas assez d'options.
Après, moi, je redis encore une fois, le PSG.
Le PSG n'est pas. En fait, le PSG n'est pas au mieux aussi. C'est ça le problème.
C'est ça.
C'est ça le problème.
Le PSG, il est pas beau.
Non,
aussi,
mais surtout le PSG, quand ils sont favoris, ils sont. Je sais pas, ils sont prenables en fait. Quand ils sont archi favoris, ils sont prenables. C'est ça le problème.
Ouais, t'as raison, Moulay. T'as raison. Donc ça va être un match prometteur. Mais je trouve, comme j'avais souvent dit dans l'émission, quand Paris se trouve dans une position où ils doivent gagner, ils se sont améliorés dans ça.
Ouais, je trouve.
Et je trouve qu'ils se sont améliorés dans ça, donc je pense que...
Ils ont appris de leur leçon, quoi.
On sait vraiment, en fait, on est vraiment dans le flou, on sait même pas dans quel état le Barça va arriver.
Là,
en fait.
C'est vraiment le flou.
On sait vraiment pas dans quel état. Parce qu'en fait, le Barça, on a vu du très très bon, comme du très très très, du catastrophique, cette année.
Ouais, c'est surtout ça.
Parce que le match contre la Juve au Juventus Stadium, c'était le match le plus abouti, je pense.
Ouais, avec un PD qui était incroyable.
Un match du Barça. Mais les derniers matchs qu'on voit contre Bilbao ou contre la Sociedad, c'est dur, quoi.
Mais
c'est
en tout cas, au moins, est-ce qui fait plaisir, il y a un joueur, tu sens qu'il est sur une... Deux joueurs qui continuent... Non, même trois. Hein. Non, deux joueurs Dembélé. Qui continuent à être sur une bonne lignée, Dembélé et De Jong. Alors, ouais. Eux, ils restent...
Franchement, De Jong, il est revenu.
Lignée. Ouais.
Franchement, De Jong, il s'est réveillé. De vrai, c'est vraiment réveillé parce qu'on voit de la constance, comme tu as dit, dans ses performances. Dembélé aussi, parce que Dembélé, pour une fois, franchement, moi je suis content parce qu'il s'est pas blessé en fait.
Ouais. Parce que il y avait une frayeur en plus contre Bilbao.
Ouais, parce que je me suis dit quand même que le gars il enchaîne les matchs, il a un jeu basé sur l'explosivité, c'est pas quelqu'un de très solide au niveau physique, donc du coup ça fait peur, mais pour l'instant il enchaîne les matchs, donc vraiment tout va bien et il enchaîne des bonnes performances en plus.
C'est ça, ouais, exactement.
Après, on connaît ses défauts, c'est-à-dire dans le dernier geste, toujours, il a toujours ce petit problème dans le dernier geste. S'il ne veut pas le crocher trop, s'il doit la mettre en retrait ou pas. S'il progresse dans ce
domaine-là,
dans ce secteur de jeu-là, je pense qu'on pourra vraiment compter sur lui. Parce que si vous voyez le match hier contre Alcoyano, c'était on donne la balle à Dembélé.
Et Dembélé faisait la
magie. Et Dembélé faisait la différence.
Mais à mon
Encore
avis,
faut-il un numéro 9.
Et pour finir sur le Barça, à mon avis, vous avez entre guillemets... Parce que vous êtes des filous, les auditeurs, je vous connais. À mon avis, vous avez bien remarqué qu'on n'a pas parlé de Messi. Parce que Messi, je ne sais pas, peut-être il a parlé avec Tyson, peut-être il a parlé avec Batista, je ne sais pas. Mais en finale de la Coupe du Roi, Messi a agressé un joueur.
Ah là, il a vrillé. Là.
Ah là, il a vrillé. Voilà, je vous invite à aller voir les vidéos sur Internet, vous pouvez les trouver facilement. Même à mon avis, vous les avez déjà vues.
Je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'aller
sur
Internet, hein, ça fait le tour du monde.
Ah
ça.
Là, c'est sûr.
Je me demande pourquoi
Messi a été. Dernier, après, je te laisse mouler. Messi a été suspendu 2 matchs et le Barça a fait appel.
C'est très gentil.
Ça, pour moi, faire appel.
Non, justement.
Oui.
Le Barça a fait appel et la suspension a été réduite.
Ah bon ?
C'est ça.
Parce que
parce que normalement, c'était 4 matchs.
Ah, ok.
Et le Barça a fait appel.
Ouais.
Donc, la suspension a été réduite à 2 matchs. Moi, je trouve que c'est très clément. C'est
bah oui, clairement.
Très clément.
Bah, non, mais...
Et je pense que si c'est pas Messi, la personne apprend 5
voilà,
matchs.
Exactement. Mais après aussi, ce qu'il faut pas oublier, et c'est ça qui fait vraiment mal au cœur encore plus, c'est que Messi, c'est son premier carton rouge.
Ouais, c'est ça qui est
étonnant. Il n'a pas vraiment d'antécédent.
Je sais pas pourquoi ça vous...
C'est étonnant quand même, non ?
Mais ça peut arriver, en fait.
Non, mais...
Ça peut vous choquer parce que c'est Messi et qu'il l'a jamais fait. Et qu'ils mettent une patate comme ça à quelqu'un, voilà. Mais à un moment donné, c'est un être humain aussi.
Il peut péter les plombs à un moment donné. Oui, c'est
surtout
vrai.
Dans un match où tu perds contre une équipe contre une équipe dont t'as mené 2 fois au score.
Ouais, surtout ça.
Tu vois
surtout que l'équipe en face est
avec le petit
jeu. Parce que tu vois le film du match. Tu vois que le gars il se fait écraser le pied. Ça depuis 10 ans il le subit, tu vois.
Ouais.
Mais quand il voit la défaite se profiler,
je pense que c'est
humain.
C'est pas la première fois qu'il vit des moments comme ça, quoi.
Ça peut être un trop parce que si tu regardes l'état du club depuis 4 ans maintenant.
Ouais,
qu'est-ce qui se passe ?
Peut-être qu'il a bouillonne et là il a explosé. Ouais, peut-être.
Parce que Messi, c'est quelqu'un qui veut constamment gagner. Moi, je pense que tout a commencé à partir de la remontada. Après la remontada. Non, à partir de la remontada, carrément. Parce qu'à la remontada, t'as quand même pris un 4-0. Mais le 4-0, c'était un 4-0 propre contre le PSG. C'était un 4-0 propre. Tu t'es fait manger du début à la fin, de la première à la 90e. Ça, c'est une première humiliation. Ensuite, la Juve, où tu t'arrives même pas à marquer. T'arrives même pas à marquer. T'as marqué 0 but. Ensuite, le numéro 3, c'est quoi? C'est la Roma. Ou même au match aller, tu gagnes, mais tu ne mérites même pas de gagner. Et au match retour, tu te fais manger. Ça, ça fait quoi? Ça fait 4, 3, 4. Ensuite, t'as Liverpool, où Messi fait une saison dingue. Et même le match où Liverpool, où le Barça se fait remonter, Messi fait un bon match.
Il a été exceptionnel. Ouais, bah oui.
Il sort.
Mais il y a quand même beaucoup d'épisodes.
Non,
mais dans le sens.
Il y a l'année où il perd. L'année dernière, où il perd 8-2 contre le Bayern. Ça, c'est grave.
C'est vrai qu'il y a beaucoup.
C'est grave.
Et c'est ça qui l'a fait un peu disjoncter.
Il perd 8-2. En fait, il gagne rien. C'est la première fois, je crois, Messi, depuis 2008, c'est la première fois qu'il fait une saison blanche. Ça lui est jamais arrivé de faire une saison blanche.
Oui.
Avec l'Argentine, avec l'Argentine aussi. Ça, on a oublié, ça, on n'a pas compté. Avec l'Argentine, la Copa América.
Non.
Ça aussi, il perd.
Oui, mais dans le sens où...
Donc, je pense que c'est un trop.
Non, mais dans le sens où ce carton rouge, il est étonnant, il est surprenant. Mmh. En fait, ou non, pas forcément qu'il est étonnant, mais voilà, que tout le monde le souligne. Pourquoi?
Parce que c'est Messi.
Non, pas forcément... Oui, de une, c'est Messi, mais... Aussi, le truc, c'est quoi? C'est que déjà, de une, c'est le premier carton rouge avec le Barça. De deux, c'est quand le carton rouge est arrivé. Je te parle pas dans le match, mais en vue de la situation qu'il y a autour du Barça.
À quel moment?
Genre, c'est vraiment la crise.
Les gens, ils en font des tonnes. Surtout, il y a eu l'épisode où ils voulaient partir.
Ouais, voilà, en plus, tu vois.
Et ça a commencé à faire dire ouais, Messi, je vous ai dit qu'il est parti, il est plus au Barça,
ouais,
il a envie de partir.
Je pense pas que c'est parti.
Moi, je pense que c'est juste un pétage de plomb comme un autre. Parce qu'à un moment donné, Messi, c'est un être humain, faut pas croire que c'est un.
Non, mais ce carton rouge.
Faut pas croire que c'est un extraterrestre.
Non, mais ce carton
rouge. Cristiano Ronaldo aussi, il a pris des cartons rouges.
Mais c'est parce que le truc, c'est quoi? C'est que
arrêter un peu.
Ce carton rouge.
On en fait des tonnes. Non, mais pour rien.
L'image de la situation.
Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de le surligner. Parce que ce carton rouge est à l'image de la situation. C'est que Messi, il a beau faire, entre guillemets, tout son possible.
Même si là, il n'avait pas fait un bon match.
Oui, mais c'est tout à fait normal. De toute façon, il revenait de blessure. Et que pour moi, il devait commencer sur le banc.
Ouais, je
n'étais pas sur le terrain. Mais voilà, à l'image de tout ce qui s'est passé, le carton rouge de Messi. Genre, c'est que Messi, il a beau faire tout ce qui est possible.
En soit possible.
Même si ce n'est pas à cause de lui, c'est quand même lui qui prend sur la tête.
C'est ça, exactement.
Parce qu'à Liverpool, ce n'est pas à cause de lui. Je suis désolé, Messi, il a fait son travail.
Mais personne n'a dit que c'était à cause de lui à Liverpool.
Je suis désolé, à Liverpool, directement, quand le Barça s'est fait éliminer, même si on savait c'était quoi les défauts.
Après, ça dépend, tu lis quoi comme avis. Tu vas sur Twitter, tu vas voir les mecs qui racontent des conneries. À dire que Messi est surcoté, à dire que Messi pour gagner des likes.
L'une des choses qui est sortie le plus après Liverpool, c'est que ouais, Messi n'a encore rien fait. Ouais, Messi était encore
Mais tu connais ça, tout le monde sait.
Mais c'est la tête de gondole du club, c'est normal.
Mais non, je suis désolé quand tu vois que le.
Non, parce qu'en fait, il a tellement.
Il est bon. Tu peux pas dire que oui, il a rien fait.
Non, parce qu'en fait, il est tellement fort.
Oui, c'est ça.
Il est tellement fort qu'on attend toujours qu'il fasse un truc de fou, en fait. Parce qu'il nous a trop habitués à ça.
Parce que regarde, c'est comme si.
Et le problème, c'est que les gens, ils sont pas lucides.
Regarde, je te donne un exemple. C'est comme si t'avais un seau d'eau chez toi.
Ouais.
Et que toi, t'avais la capacité de ramener un litre chaque minute.
Ouais.
Et que c'est exceptionnel. Mais que derrière, ton seau qui est chez toi, il est vide. Et après, tu t'aperçois qu'il y a des trous au fond du seau. C'est pas de ta faute.
Ben bien sûr, c'est pas de ta faute, tu vois.
Bien sûr.
Non, mais j'aime bien la comparaison là.
Je suis
d'accord.
C'est exactement ça.
Je suis d'accord avec ça.
Derrière ça.
Je suis d'accord avec ça, mais je pense que Messi il a pas pris cher par rapport à ça.
Ah, moi personnellement, j'en ai beaucoup entendu.
Moi, j'ai pas vu.
Que ça soit ça avec la Roma.
Mais Omar, si tu regardes bien, c'est vrai que si tu regardes bien, à chaque épisode que tu as énuméré, à chaque épisode, Messi se fait déglinguer quand même, c'est vrai.
Ben oui, ouais, et surtout, t'as toujours cette image de Messi qui baisse la tête.
Mais c'est ça.
Tu vois,
c'est ça.
On dit ouais, il baisse la tête et tout ça. Non, mais je sais que les gens au fond savent qu'il peut rien faire.
Ah, bah oui.
Face à ces situations-là. Parce qu'on attend à ce que Messi soit Maradona, en fait. Mais Messi ne sera jamais Maradona.
Bah, c'est deux personnes différentes, de toute manière. Tu vois sur le caractère, c'est deux personnes différentes.
Dans l'attitude, dans tout, c'est pas pareil.
C'est ça.
Donc, bon, voilà. Mais après, bon, Messi, on a fait des débats sur lui. Bon.
Je voulais dire un mot sur l'Atlético. Je trouve qu'ils tirent bien leur épingle du jeu. Parce que, bon.
Ah, bien sûr.
Parce que si tu regardes bien, les deux gros qui sont en situation de délicatesse, mais c'est pas le tout de profiter de la situation, parce qu'il y en a certains qui n'auraient pas profité. Hein.
C'est ça, c'est
donc,
ça.
Donc ils profitent bien de la
c'est
situation.
Ça. Et ça, en plus, ça arrive toujours, ça arrive souvent en France et en Allemagne, où quand le Bayern n'est pas bien,
c'est ça.
Ou quand le PSG n'est pas bien, les autres n'en profitent pas.
Voilà, donc ouais, l'Atlético, ouais. Là, je trouve qu'ils ont un rôle incroyable, ils ont bien profité
de la situation. Sachant qu'ils ont fait un bon mercato aussi, il faut dire la vérité. Hein. Parce que quand tu prends Suarez,
dans son choix de mercato, il savait qu'il allait changer de jeu.
Qui Simeone? Ouais. Je pense que lui, ouais, lui savait. C'est nous, on le savait pas, je pense.
Voilà.
C'est nous, on le savait pas.
Il nous a pris de.
Il nous a pris de court.
Ça se voyait.
En fait, dans notre tête, on savait pas qui. On pouvait pas qui. On pensait pas qu'il pouvait changer, en fait.
Ouais, c'est ça.
On se dit, la question du coup, c'est ça et que ça restera comme ça.
C'est ça. Parce qu'il a eu du mal un peu à faire la transition, à jouer un peu plus haut. Il a toujours été en mode comme ça. Mais comme j'ai dit, ils ont fait un très très bon mercato.
Moi, le seul truc, enfin, je me dis que.
Avec les buts de Suarez encore, hein.
Il est trop fort. Mais il y a un truc que je me dis que voilà, ils ont un peu mal joué. C'est juste la Coupe du Roi. Je trouve ça dommage. Quand tu vois que le Real Madrid se fait éliminer et que derrière t'as le Barça qui est comme ça, tu dis en fait, si t'es l'Atlético, tu
pouvais le faire.
Aller la chercher en fait.
Tu pouvais le faire. Après, l'Atlético, c'est pas une équipe qui est réputée ultra régulière comme le Barça et le Real qui. Quand ils arrivent face à des équipes un peu inférieures, certitude ils vont gagner, tu vois. Parce que souvent c'est une équipe qui a du mal à faire le jeu.
Ouais, c'est non, mais je comprends.
C'est souvent une équipe qui est pas, en tout cas c'est pas une équipe qui est pas formatée pour ça, parce qu'ils ont que des joueurs de ballon. Mais c'est une équipe qui a dans l'idée de jeu générale qui a du mal à faire le jeu,
Après peut-être
d'habitude ils le font pas du tout. Ils laissent le ballon à l'adversaire et ils le contrent. Cette année, ils le font, mais c'est que la première année.
Après, je veux pas dire qu'ils ont fait exprès de perdre, mais peut-être qu'ils sont plus concentrés sur le championnat.
Ouais, moi aussi, je me suis dit ça aussi. Ouais, moi aussi, je me suis dit ça.
Vraiment, ça peut être vraiment du tout. Et de rien.
C'est pas alarmant, je pense, parce que gagner la Liga devant le Barça et le Real, ça fait toujours quelque chose.
Ah, ça.
Il l'avait fait en 2014, et là, je pense qu'ils vont le réitérer.
Ouais. C'est en bonne voie, en tout cas.
Les gars, on va passer à la première ligue. Et on va se faire un petit, entre guillemets.
Ah, non, même pas souligné du Bilbao.
Ah ouais,
qu'ils ont gagné la Coupe du la Super Coupe
d'Espagne.
D'Espagne. Ouais, c'est vrai quand même. J'ai pas aimé comment ils ont joué, mais
moi j'ai bien aimé.
Non mais à la
moi,
fin,
j'ai bien aimé.
Anti-jeu tout ça, c'est
une... Ouais, mais après c'est comme ça contre le Barça.
Non mais moi je comprends parce que
t'es aussi supporter du Barça.
Oui, déjà de une et je me dis, et c'est ça que j'étais comme ça devant ma télé. Genre j'étais énervé qu'il fasse de l'anti-jeu, mais après je me disais calme-toi parce que si t'aurais été sur le terrain t'aurais fait pire.
Mais je suis c'est ça. Voilà, moi je suis supporter de Bilbao, je suis tout
nul. Non mais en fait
moi je le dis parce que c'est Marcelino, l'entraîneur de Bilbao, ce qui est un super entraîneur, il vient d'arriver
il y a pas très longtemps.
Il avait déjà battu le Barça en 2019 en finale de Coupe du Roi avec Valence. Ouais. Et franchement c'est un entraîneur qui fait du bon travail et faut pas oublier la politique de Bilbao. Qui ne vise à avoir dans son équipe
que des joueurs formés
basques.
Ouais, basques.
Soit qui sont nés au Pays Basque ou soit d'origine basque. C'est-à-dire que, bon, t'as pas forcément un gros choix sur le mercato. Tu peux pas recruter comme tu veux. Et lui, il arrivait là, il y a pas très longtemps. Il sort le Barça, il sort le Real et il gagne sa Super Coupe.
Il gagne sa Super Coupe des
Champions. Avec une prestation solide, hein, solide, franchement. Le but d'Iñaki Williams, c'est quelque chose. Hein.
Oh oui. Oh là là là.
Ah, c'est quelque chose.
Comment il rentre,
les prestations de Mouniain. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, c'est pour ça que je voulais souligner Bilbao.
Ouais, il y avait vraiment à souligner aussi de leurs prestations. Ouais, pas mal.
Mais tu veux dire quelque chose
ouais,
non, c'est bon, c'est bon.
On passe à la première ligue, les gars. La première ligue. Alors, il s'est passé beaucoup de choses entre la première émission de cette année 2021 et maintenant. Il y a vraiment, vraiment.
Il y a eu des matchs tous les 3 jours.
Alors là,
tous les 3 jours.
Alors, dites-vous que.
Bon, c'est vrai, il y a trop de foot là.
Au début d'année, Liverpool, ils étaient quand même leader.
Ouais.
Ouais.
Là, c'est l'ennemi numéro 1 de Omar.
C'est la débandade.
Alors, je vous donne le classement.
Quelle humiliation.
Je vous donne le classement. Et en plus, je vous donne aussi le nombre de matchs qu'ils ont fait. T'as Manchester United qui sont leaders avec 40 points, avec 19 matchs. Ils ont joué 19 matchs.
Plus d'un point par match quand même. Plus de 2 points par match quand même.
Après, t'as Manchester City qui sont deuxième avec 38 points, mais eux ils ont joué 18 matchs.
Déjà ils ont un match en retard.
Donc eux c'est potentiellement leader quoi.
Ouais, déjà. Virtuellement. Leicester eux ont aussi 38 points avec 19 matchs. Et on va finir avec Liverpool qui sont 34 points et avec 19 matchs. Et
Liverpool qui a perdu hier à Burnley. Hier à domicile face à Burnley.
Ça faisait 4 ans que Liverpool n'avait pas perdu à domicile. On va revenir sur Liverpool.
C'était contre qui ça, je crois? Je crois que c'était contre Crystal Palace.
J'en souviens plus.
Non, Crystal Palace, c'est pas le moment où. Non, je
attends,
mais il y avait encore Coutinho.
On va revenir.
Il y avait Coutinho, je crois qu'il y avait Mamadou Sakho.
Il
y avait Clavane.
Je vais donner encore d'autres noms, d'autres grands noms. T'as Tottenham qui est derrière Liverpool à un point, mais avec un match en moins.
Ah ouais.
T'as Everton.
Donc, techniquement, Tottenham est devant Liverpool.
Ouais. T'as Everton qui sont à 32 points, ça veut dire à 2 points d'écart avec Liverpool, qui lui est seulement à 17 matchs.
Oh, Everton.
Deux matchs de retard.
Ils ont deux matchs de retard.
Et
faut pas oublier qu'ils ont pas de Coupe d'Europe en plus.
Ça commence à soutenir le roussi.
Tu vois. Ça veut dire. Et après, c'est bon. Dis-toi que Everton et Tottenham peuvent passer devant Liverpool. Ça veut dire que Liverpool peut se retrouver 6ème.
Alors qu'ils étaient leaders il n'y a pas si longtemps que ça.
Pas 2 semaines. Hein.
Voilà. Le foot.
Et pour terminer, Arsenal sont 10ème avec 27 points. Mais moi, j'ai envie de souligner quelque chose que Moulay a souligné quand on était sur la route pour enregistrer cette émission.
Ah, ça y est, il va se mettre à poil.
En début d'année.
Ah, ça y est, il va se mettre à poil.
J'avais dit.
Regarde, attention, il enlève son t-shirt.
Arsenal est à seulement 10 points de Liverpool, leader.
Omar disait. Oh.
Omar, il était là. Oh, on dirait ils sont juste derrière. On dirait après un machin.
Eh, ça a combien? Ça a combien?
Maintenant, tu te dis, vu l'état de forme d'Arsenal et vu l'état de forme de Liverpool, tu dis qu'il y a moyen.
Il y a combien? Ils sont à combien?
Il y a moyen ou pas?
Moi, je te pose une question.
Il va commencer à s'énerver.
Non, mais moi, je lui pose une question. Il me répond pas.
Est-ce qu'il y a moyen?
Mais Moulay, regarde, il me pose une question. Ouais. Il me repose une question.
Non, mais.
C'est pas normal.
Mais non, parce que c'est moi, j'ai pas fini de parler. Ça
non, moi, je te dis, moi, je te demande juste une question. En plus, la question, elle est pas embarrassante. Je te demande, tu sors combien de points?
Ils ont seulement 7 points de Liverpool.
Seulement,
quand même. Et les deux, ils ont joué l'intégralité des matchs.
L'intégralité des matchs.
7 points, quand même.
7 points, c'est beaucoup?
C'est deux matchs.
C'est beaucoup.
C'est deux matchs et un match nul.
C'est deux matchs.
Trois matchs.
Ouais. Je suis désolé.
Respecte-nous quand même.
Mais t'es pas aussi serein qu'en début d'année.
Franchement. Non, par rapport au début d'année, pas du tout.
Ah, voilà.
Après, en fait, ma sérénité, elle est partie. À partir du moment où on a commencé à aligner Henderson, Fabinho derrière.
Eh ben justement, on va enchaîner sur Liverpool. Omar, peux-tu nous dire ce qui se passe avec Liverpool? Tout en sachant que là, bah, comme tu as dit, ils ont perdu hier. C'est la première défaite en 4 ans à Anfield. Qu'est-ce qui se passe avec Liverpool?
En fait, on a une grosse méforme des joueurs. Liverpool n'a pas marqué de but depuis 4 matchs.
Ouais, quand même.
Ah, ça, je savais pas ça.
Ouais, Liverpool n'a pas marqué de but depuis 4 matchs.
J'ai pas remarqué ça quand même. C'est vrai que.
Tant que c'était pas arrivé ça.
Ah, ça fait longtemps.
Alors là.
Ah, ça fait très 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 longtemps.
Pas qu'ils ont quand une... tu sors de la dernière saison, ils enchaînaient les buts. Ouais. Et là, t'es. Ah ouais. Ah,
Liverpool n'a pas marqué de but depuis 4 matchs. Le nul à West Brom. La défaite à Southampton. On a eu le nul contre United. Et hier, la défaite contre Burnley.
Ah ouais, quand même.
Ça fait 4 matchs que Liverpool n'a pas marqué. On a des joueurs qui sont en très 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 mauvaise forme. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a un effectif relativement réduit. On a un banc qui est relativement faible.
Ah ouais.
Parce que le banc de Liverpool, c'est Minamino, Origi, Shaqiri, Curtis Jones qui est jeune.
T'ajoutes à ça les blessés, ça fait beaucoup quand même.
Dans la liste de blessés, t'as les 4 centraux.
Ouais.
T'as Matip, t'as Gomez, t'as Van Dijk. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Additionné à ça, la grosse méforme d'Alexander Arnold qui était le meilleur passeur de la Première Ligue l'année dernière et qui est à 2 passes décisives cette année.
Ah ouais, tu sens la différence avec l'année dernière.
On a Mohamed Salah qui est en très grosse méforme. On a la blessure de Diogo Jota, que j'avais pas dit, qui avait commencé très fort.
C'est un très bon élément, lui.
Qui avait commencé très très fort. Additionné à ça, le bricolage de Jurgen Klopp par conséquent.
Parce qu'il est obligé.
Parce qu'il n'a pas forcément le choix, Jurgen Klopp. Derrière, donc le 11 titulaire de Liverpool, c'est Alisson au goal. En défense centrale, on a Henderson, Fabinho, qui sont deux numéros 6.
Deux 6 quand même, c'est dingue.
Ils sont deux numéros 6. Alexander Arnold et Robertson. Robertson aussi qui est mauvais en ce moment. Il ne nous a pas habitués à ça. Au milieu de terrain, on a Thiago Alcantara en 6. On a Wijnaldum. Le troisième, c'est qui déjà? Le troisième, la dernière fois contre United, il avait mis Shaqiri.
Ah, j'ai vu ça.
Shaqiri au milieu de terrain et on a les trois devant. Donc forcément l'équipe elle est fortement chamboulée.
Ah ça c'est
l'équipe elle est fortement chamboulée.
Bah c'était encore, excuse-moi de te couper, mais c'était encore Shaqiri.
Et c'était encore Shaqiri au milieu de terrain. Voilà. Et ça
Wijnaldum, Alcantara, Shaqiri.
Wijnaldum, Alcantara, ouais. Shaqiri, c'est-à-dire que Thiago il va jouer plus bas. Thiago qui est pas forcément un défenseur, un 6, qui est pas forcément un 6, c'est un joueur de ballon qui fait créatif le jeu.
Et Mohamed, et Mohamed Salah était sur le banc.
Ah, Mohamed Salah est très mauvais. En ce moment, il est très mauvais, Mohamed Salah. Il joue beaucoup en retrait, il prend moins d'initiative, il déborde moins. Ça peut être dû aussi à une fatigue physique, parce que Liverpool enchaîne les matchs.
Aussi. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier.
Il ne faut pas oublier, il y a eu la Première Ligue, ensuite ils ont joué le Community Shield, ils ont enchaîné les matchs.
Mais surtout que lui aussi, il a eu le Covid aussi.
Surtout qu'il a eu le Covid, Sadio Mané a eu le Covid aussi. On a eu Firmino qui était en méforme, qui ne marquait plus depuis des lustres. Donc oui, je pense que Liverpool a un gros coup de moins bien. Un gros coup de moins bien, dû aux blessures, dû à une fatigue physique, parce qu'il ne faut aussi pas oublier que le jeu de Jürgen Klopp est un jeu qui est très 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 énergivore.
Ouais, qui demande beaucoup d'énergie.
La preuve avec Naby Keita qui a été acheté 70 millions d'euros et qui ne s'est toujours pas imposé dans le 11. Aujourd'hui, il préfère mettre Shaqiri que Naby Keita par exemple.
C'est dingue.
Ça, il est là le problème. Donc Liverpool a besoin de se réinventer, je pense. Ils ont besoin de se réinventer et ça passera par des départs et des changements de
joueurs.
De joueurs, même un changement de dispositif parce qu'aujourd'hui, tu as Firmino. Mais Firmino, je suis désolé, il marque pas. Il marque pas beaucoup de buts. Donc, est-ce qu'il faut pas un numéro 9, un tueur, un vrai numéro 9 qui marque des buts, plutôt qu'un Firmino qui joue aussi pour le collectif, mais qui ne marque pas de buts?
Ouais, et vu les problèmes offensifs, ouais, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a.
T'as pas marqué depuis 4 matchs, donc c'est chaud.
Et en plus, le prochain match est vraiment très important pour Liverpool. Parce que
c'est face à Tottenham.
Match, c'est contre Tottenham. C'est jeudi face à prochain. Tottenham.
Jeudi prochain, ouais. Un match qu'on avait gagné en Sud, mais là ça va être une toute autre configuration.
Là c'est un gros concurrent quand même.
Ah, ça va être un gros concurrent.
Derrière, quoi, parce que c'est à dire si Tottenham il gagne, bon bah ça passe devant quoi.
Et United qui joue un petit juste après. Je pense que ça va leur permettre de prendre le large aussi.
Bah United il joue mercredi contre Sheffield Wednesday.
Sheffield
ouais. United,
les derniers.
United, excuse-moi.
Et il joue contre les derniers.
Attends, je vais te pourquoi vos gens de Sheffield, tu vas dire.
Et après on va voir Arsenal United. Ouais, ça va être bien.
C'est un gros match.
Trois jours après, ça va être. Et après, Liverpool, eux, vont enchaîner West Ham.
Mais ça me permet de faire un parallèle sur cette saison de Première Ligue. Est-ce que vous avez vu un match qui vous a emballé cette année en Première Ligue?
J'essaie de réfléchir.
Par rapport à l'année dernière, moi, j'en ai trouvé aucun.
Ah, peut-être si le Liverpool-Leeds on prend
pas. Oui, dans les débuts, oui.
Mais c'est vrai que depuis un moment, c'est.
Mais entre les membres du top 6.
Moi, perso, ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce que le calendrier. Moi, perso, je suis toujours scandalisé par le calendrier et qu'ils l'ont pas allégé. Moi, perso, je pense que les dirigeants au-dessus, maintenant, ne pensent plus à l'état des joueurs, mais pensent plus à l'argent, en fait.
Bah ouais, c'est ça.
C'est le
ressenti total.
Et ça va rebondir sur la Super League, à chaque fois. À chaque fois, on va faire ce débat, on va rebondir sur la
De toute manière, on doit reparler. Et il y a une information sur la Super League. Mais pour moi, le calendrier est en train de tuer les joueurs et en train de tuer la passion du foot. Parce que vois moins d'intensité, tu vois moins de trucs spectaculaires.
Et on voit beaucoup de matchs pour rien. Et
voilà.
On voit beaucoup de matchs.
Pour remplir le truc. Et en plus de cela, il ne faut pas oublier que les joueurs ne pourront pas se reposer parce que derrière, il y aura encore l'Euro. Il y aura encore la Copa América.
La Coupe du Monde.
Et après, derrière,
il y a Cannes. Il y a les JO pour les jeunes.
Il y a la Cannes.
Et l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde.
Derrière, il y a la Coupe du Monde.
Voilà, Coupe du Monde. Bon, après, la Coupe du Monde, ça va jouer en novembre-décembre, donc ça va.
Non, mais quand même, moi.
Mais ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop.
Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que vu que ça va jouer en novembre-décembre, eh ben, c'est.
2022.
Mais ces matchs-là, eh ben, ils vont être décalés.
C'est ça. Et ouais, donc, il faudra les enchaîner. Il faudra les enchaîner.
Et ça va enchaîner.
C'est ça.
Et pour moi, c'est un truc en train de tuer. Non, là, c'est pas spécialement à cause du Covid. Je suis désolé. C'est à cause des dirigeants, parce que tes dirigeants là.
Ouais, c'est vrai qu'ils doivent alléger leur calendrier.
Mais oui, tu supprimes quelques compétitions, je suis désolé. Pour moi, entre guillemets, pour l'Espagne, tu supprimes la Coupe du Roi.
Bah, si tu regardes bien, en France.
Mais le problème, c'est que tu peux pas toucher à ça.
Bah, regarde, si tu regardes
bien. Mais t'es obligé,
C'est trop traditionnel.
Ouais.
En fait, ce que je veux dire, c'est que ça a trop d'importance dans le pays, dans la culture et dans la société du pays. Donc, tu peux pas enlever la Coupe du Roi comme ça.
Regarde, Omar,
tu
vois ce que je veux dire?
Tu préfères garder ça que d'alléger tes joueurs.
Mais regarde,
si tu continues à penser vraiment au niveau de l'argent, je suis désolé là.
Non, mais Omar, je comprends, il veut dire c'est culturel en Espagne en fait ça. Mais
la Super League. En fait, ça va revenir à la Super League.
Situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, ouais. T'es obligé.
Tout ça ramène au débat de la Super League. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, si tu fais disparaître les championnats et tu fais une coupe, enfin pas disparaître, mais si tu fais une Super League, les championnats seront d'une importance
moindre,
mais plus que moindre. Ouais, ça va être vraiment nul. Donc les grosses équipes vont mettre leurs équipes B, les grosses équipes type Liverpool, Arsenal, si on peut les considérer comme des grands, ou même Manchester, les City, tout ça. Quand ça va arriver en Première Ligue, ils vont mettre leur équipe B.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, mais apparemment, la FIFA a dit que s'il y a des joueurs ou des clubs qui participent à la Super League, ils seront exclus de toute compétition.
Ouais, c'est ça.
Mais vous savez pourquoi ?
FIFA veut sanctionner, entre guillemets, les joueurs qui... Enfin, les clubs qui participeront
mais vous, à la Super League. Mais vous savez pourquoi ?
Parce que c'est la FIFA qui va tout
économiquement,
perdre.
Économiquement, c'est pour ça.
Parce que la FIFA veut faire sa Super League.
C'est ça.
Et
donc, là, ils sont trop les concurrencés. Donc, on
sera dans un conflit FIFA contre UEFA.
Ouais, c'est ça.
Tu vois ce que je veux dire?
Et tout ça, c'est encore une question d'argent, tout ça.
Et quitte à délaisser l'UEFA et faire disparaître la Ligue des Champions, je pense que les clubs vont le faire. Cette Super League, ils vont le faire.
Moi, je pense que
c'est inévitable.
Mais est-ce que tu vois le. Bah, toi qui parles de culture culturelle. Désolé, la Ligue des Champions, c'est la culture du foot. Tu peux pas faire le foot sans la Ligue des Champions.
Mais surtout, c'est ça le problème. Mais le truc, c'est qu'on va devoir changer d'air, en fait. Ouais. C'est pour ça que je sais pas si c'était à vous que j'avais dit, mais je pense qu'on est à la fin d'une ère dans le foot.
Si, tu l'avais dit.
Je pense que je vous l'avais dit aussi.
Ouais, tu l'avais dit.
Je pense qu'on est à la fin d'une ère. Et du coup, notre réflexion sur le foot va complètement changer.
Si tous les clubs ou tous les joueurs participent à cette compétition, ils pourront pas espérer tout le monde, de toute façon.
Bien sûr, c'est ça.
Si tout le monde participe.
C'est ça. Mais de toute façon, quitte à faire disparaître la Ligue des Champions, comme je l'ai dit, le front, cette Super League. C'est inévitable.
Je sens que ça va arriver.
Ça veut dire que tu vas faire disparaître la Ligue des Champions pour une Super League.
Pour une Super League, cette Ligue des Champions-là, la Ligue des Champions telle que tu connais, ça sera cette Super League-là.
D'ailleurs, il y a un débat qui me vient.
Va falloir que tu t'adaptes, c'est comme ça. Il y a des compétitions comme ça qui ont disparu, la Coupe des Coupes. Ça a disparu.
Il y a un débat qui me vient en tête. Est-ce que en gagnant la Super League, tu pourras targuer autant en disant que tu as gagné la Super League autant que tu
t'es targué d'aller la Ligue des Champions. Ouais, après c'est le début d'une autre histoire, c'est en fait. Ça va être ça.
Parce que peut-être pour nous ça serait choquant et ça serait un truc qu'on n'accepterait pas, etc. Mais peut-être pour les générations futures, genre ça va être une normalité.
Si tu regardes comment les petits, enfin les petits, les 18-25. Bon, nous on était 18-25.
Ouais.
Mais on pense pas exactement comme ça, mais si on regarde comment les gens y pensent, à cause de tout ce qui est FIFA, tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les joueurs, les gens qui sont consommateurs de foot, c'est-à-dire à partir du public jeune, tu penses que ces gens-là, ils pensent à la culture club, à la culture du supporterisme, tout ça? Non, moi je pense qu'ils supportent plus les joueurs que les.
Ouais. C'est vrai, il a raison.
Que les clubs, tu vois.
Ouais, par exemple, genre.
Tu vois, par exemple, un mec qui est avec Lyon aujourd'hui, un jeune qui sera avec Lyon, il sera plus là parce qu'il y a Memphis.
Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et que quand il part, bah s'il part, je sais pas.
Quand il partira, ça sera, il sera moins.
Il va changer, il va être Barcelone.
Ouais, voilà.
Tu mets le doigt sur quelque chose, en fait. Cette génération maintenant, elle s'attache plus aux joueurs qu'aux clubs, en fait.
Mais je pense qu'on fera ce débat-là, je pense.
Je pense que c'est un
bon débat. On fera ce débat-là. De toute façon, je le proposerai si les auditeurs veulent en parler aussi. On en parlera, mais je pense que oui.
Est-ce que la passion a pas changé quelque chose? La passion, elle a changé de.
Si ça a tourné.
Ça a évolué. Aujourd'hui, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais l'ère Messi Ronaldo a complètement changé les mentalités des footballeurs aujourd'hui.
Mais c'est mieux qu'on le garde en soi.
Je vois ce que je veux dire.
En plus, il reste pas beaucoup de temps dans.
Qu'est-ce qu'il y a?
Vous avez eu le réflexe de regarder l'horloge.
Au même moment.
Mais on est en enregistrement, les gars.
Ah ouais, c'est vrai.
Tu vois, c'est différent.
Non, mais tu t'as dit, il reste pas beaucoup de temps.
Oui, pas beaucoup de temps, mais au niveau de l'enregistrement.
Ah, ok.
Mais bon.
C'est un bon débat à faire si il y en a qui sont partants pour en parler.
Pareil, en plus,
et s'ils veulent venir en parler ici dans l'émission?
Vu que pour l'instant on n'est pas en direct, on va attendre encore un peu.
On va attendre
encore un peu. Mais bon, rapidement, très rapidement, on parlera de la situation du City. Puisque Manchester City
est revenu.
Début d'année, on disait que c'était catastrophique. Là,
bah après, on s'attendait tous à ce qu'ils reviennent, en fait.
Bah ouais, encore heureux qu'ils reviennent, j'ai envie de dire, c'est ça.
Vu les joueurs qu'ils ont, sincèrement.
C'est surtout ça. Mais voilà, pas mal, ça revient pas mal. En plus, ils peuvent être leaders.
Mais depuis l'arrivée de Ruben Dias, ils sont plus solides, je trouve.
Ouais, il a apporté la solidité.
Ça prend moins.
Après, on le savait que c'est ça qui manquait à City.
C'était une bonne défense. Parce qu'on avait les blessures de Laporte et tout.
Ouais, voilà, que c'était pas constant, etc. On peut aussi souligner Arsenal qu'en ce moment ça va mieux.
Ouais, ouais, grosse remontée. Grosse remontée. Je me suis moqué d'eux pendant un mois, je crois.
Et qui, surtout qu'ils vont rattraper Liverpool.
Ouais, je pense que pendant un mois, j'étais en train de me moquer. Ils étaient 15e.
Ouais, ils étaient tout en bas, ils étaient tout en bas. Et là, ils commencent à revenir, etc.
Non, mais chaque saison.
Arteta a changé sa composition et sa formation, et ça va mieux.
Hein. Même Aubameyang, il commence à retrouver des couleurs.
Vous en pensez quoi de Leicester?
Bah, justement, j'allais le dire. Moi, j'aime bien.
Moi aussi, j'aime bien. C'est séduisant un peu.
Leicester, c'est toujours l'équipe voilà, que tu attends pas, mais qui est au rendez-vous, en fait.
Mais là, pas comme. Bon, je vais pas faire le parallèle avec le titre de 2016. Avec Kanté, Mahrez et tout. Mais là, depuis qu'il y a Brendan Rodgers, je trouve que c'est une équipe qui fait du jeu. En fait, elle est séduisante à voir, cette équipe.
Ouais. Non, mais
depuis l'arrivée de Brendan Rodgers.
Surtout que, si tu regardes bien, après un titre, généralement, l'équipe a ce. Déjà, il y a plein de joueurs qui partent et le niveau il baisse. Ouais. Et là, je trouve qu'ils ont retrouvé un bon niveau.
Bah, en fait, le niveau il a baissé.
Ouais.
Quand ils ont viré Ranieri, ils ont ramené qui après
je sais plus exactement.
Ah, c'était un anglais là.
Je sais plus.
Ah, j'ai oublié son nom.
Non, mais ce que je veux dire.
Ensuite, il y a eu Claude Puel.
Ouais,
ça
n'a
pas marché aussi. Et là, quand Brendan est arrivé, il a refait une équipe parce qu'en fait, aussi, ce qui est avantageux pour la première ligue, c'est que tous les clubs, ils ont des moyens. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde peut dépenser comme il veut, à peu près.
Je sais pas. Mais moi, j'ai envie de faire le parallèle avec Montpellier en France. Tu vois, c'est pas le même, mais je trouve qu'après le titre, Montpellier, ils se sont. Non, attends, je parle du titre par rapport au titre. Montpellier,
le titre de Montpellier
en
2012.
Voilà, deux équipes inattendues qui ont gagné leur championnat.
Ah, Montpellier, c'était vraiment inattendu.
Oui, voilà ce que je veux dire. C'est que ces deux équipes inattendues, ils ont baissé de niveau. Après, ils sont remontés. Bon, même si Montpellier, c'est pas exactement le même.
C'est pas exactement la même chose, mais
j'ai envie de faire le parallèle.
Je vois ce que tu veux dire. Même si, bon.
Parce que c'est deux équipes inattendues qui ont gagné leur championnat, quoi.
C'est ça. Mais pas dans le même contexte. Parce que là. Leicester, ça joue la Coupe d'Europe aussi.
Ouais, c'est ça aussi. C'est pas
là, ils sont en Europa League, ils sont sortis de leur poule, ils sont qualifiés pour les.
Oui.
C'est quoi, c'est les 16e.
Ouais, la première ligue avec la Ligue 1, c'est pas pareil aussi.
C'est les 16e. On a des gros joueurs de talent, tu vois. À Montpellier, t'as des tout petits joueurs de Ligue 1, tu vois. Des tout petits joueurs. Des bons joueurs de Ligue 1, des Savagnier, des Mollet.
Des Delors.
Delors, Laborde. Mais là, t'as des joueurs, franchement, c'est des joueurs, ils peuvent jouer dans des gros clubs.
Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je voulais faire le parallèle parce que je trouvais que c'est deux équipes.
Ça se ressemblait, ouais. Ouais. T'as des gars comme Madison, Ndidi qui est un des meilleurs 6 de première ligue. On a Vardy qui est inépuisable.
Tillmans.
Vardy.
Yuri Tillmans qui avait pas réussi à Monaco mais qui est exceptionnel. À Leicester.
À Leicester, ouais.
Leicester, c'est une équipe très séduisante. En attendant de voir, je sais pas pour vous, j'ai envie de voir où est-ce qu'ils vont finir cette saison.
Ouais, pourquoi pas.
Tiens, donnez-moi un top cette année.
Attends, on te donne le classement ?
Le classement. Le top, c'est
City. Liverpool, United, Tottenham, Arsenal et Leicester.
Moi personnellement, je dirais plus City, United, Tottenham, Liverpool, Leicester. Bon. Liverpool, je vois bien 4ème.
On l'a vu. Everton, on en parle pas, mais peut-être. Non.
Je pense pas que ça va.
Ça va être chaud, hein.
Parce que c'est bizarre. Moi, parce que ça perd quand même. Ce n'est pas là, c'est.
Ouais, c'est ça.
Non, mais ça perd quand même des points.
Ouais, en plus, tu vois.
Ça perd quand même des points. Moi je dirais.
Vas-y, Omar.
City pour moi ils vont gagner.
J'hésite entre United et City parce que surtout. Non, moi j'irais United champion parce que. Ils sont en Europa League donc on va considérer qu'ils sont pas forcément en Coupe d'Europe. Non, parce que c'est même pas pour mépriser l'Europa League, c'est que.
Ouais, c'est pas autant.
Ils privilégieront forcément la Première League que l'Europa League. Donc s'ils sortent de l'Europa League pour gagner en Première League, c'est pas grave.
Alors que City non.
Ouais. Et City va prioriser la Ligue des Champions.
Bah oui.
Tu vois, parce que si Gorgela gagne pas la Ligue des Champions, là il va prendre cher.
Bah,
donc j'irai United champion. City
c'est pas con. C'est pas con, hein.
City ou Liverpool en 2.
Non, City ou Liverpool en 2. Cette année ça va être très très difficile pour Liverpool.
J'irai plutôt City en 2. Après, je pense avec les 3, ça va se tuer entre Liverpool, Tottenham. Liverpool, Tottenham et Leicester, ça va se tuer.
Ouais, en tout cas, pourquoi pas. Mais les gars, comme vous entendez, Doc Gynéco qui vous caresse les oreilles.
Oh là, c'est la fin
de l'émission.
Non, pas Doc Gynéco.
Encore la fin de l'émission. Alors, je vous invite de nous retrouver sur Twitter, les amis. Venez nombreux.
On va lancer le sondage. On va lancer le sondage.
Et on se retrouvera dans la prochaine émission. Je ne vous dis pas c'est quand, en espérant que on puisse enfin revenir en direct, etc. Comme ça, vous pouvez venir et nous appeler.
Mais il y a quoi comme sujet qui pourrait plaire aux auditeurs?
T'inquiète.
Bon, venez sur la tribune foot.
En tout cas,
hashtag la tribune foot.
Je vous remercie tous d'être
présents. Hashtag la tribune foot, en tout petit.
Je veux pas lâcher avec soi.
Eh bah écoute,
d'ailleurs,
notre émission elle est bien. Les gens,
tu as créé le hashtag?
Je l'ai créé déjà.
Ah, tu l'as déjà créé? Ok.
T'as vu, il anticipe les choses. Bon,
je vais faire des études dessus, t'inquiète.
Guns in life. Follow Moulay. Guns in life.
En tout cas, sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine.
À la prochaine, merci à tous.
Et merci d'être présents.
Ciao.
Pas de prolongation, j'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot c'est malsain comme la musique, y'a que des...